I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. J'espère que vos vacances se passent bien. J'espère que mes vacances se passent bien. Comme vous le savez, j'ai pris des petites vacances d'été. Donc, c'est pas un épisode d'actu classique qu'on a aujourd'hui. Mais je pense que c'est un épisode qui va énormément vous intéresser. Et j'espère qu'il va vous être utile également. Puisqu'on va parler de tech et de seniors. Et de notre rapport peut-être à la tech et les seniors ensemble. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je suis Patrick Béja et pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de recevoir Erwan Medoc. Comment ça va, Erwan ? Est-ce que je prononce bien ton nom ? Parce que je sais que les Bretons, parfois, ils sont particuliers. Hein.
Ouais, on est un peu particulier avec... Alors, c'est presque ça. C'est Medoc, mais bon, c'est pas grave. Medoc. Bah écoute, je vais très très bien. Merci à toi. Vraiment, c'est un plaisir et un honneur de participer à cette émission. Je me souviens encore d'écouter le premier épisode d'Azeroth.fr.
Oh, ça remonte là, oui, c'est vrai.
Ouais. Et maintenant être ici, c'est fou en fait, mais ça fait très très plaisir.
Bah écoute, c'est moi qui te remercie. Tu as une expérience qui est particulière et qui, je crois, va bénéficier beaucoup à notre audience. Donc, je te remercie de mettre ton expérience à contribution pour l'émission. Tu as l'habitude de travailler beaucoup avec des seniors, justement, mais pas simplement comme ça, de manière aléatoire. Tu le fais de manière très systématique, je dirais. J'exagère un petit peu, mais presque académique. C'est vraiment il y a un élément de passion pour toi. Et il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont ils appréhendent la tech, pourquoi ils l'appréhendent de cette manière, pourquoi nous, on a ce rapport avec eux sur des sujets de ce type. Il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à relever là-dedans. Avant de se lancer, je voudrais que tu nous dises quelques mots sur toi quand même pour te présenter. Mais encore avant ça, je vais quand même remercier les patriotes qui soutiennent l'émission, qui font en sorte que l'émission existe et continue à être aussi bonne qu'elle peut l'être. J'espère en tout cas m'aider à la rendre aussi bonne que je peux la rendre. Et je voudrais remercier spécifiquement Antoine Thiel, Clément Dumasi, Xur Vince, Thomas Dumazer, Alexandre Light Ex Machina, Hervé Ranchin, Jez Chris, Emmanuel Poirier et Théo Van Rouge. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com/rdvtech. À force, vous la connaissez cette URL, patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous. Et donc, Erwan, première étape, avant tout le reste, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? J'imagine que tu es informaticien, me demande-je innocemment.
Alors, c'est vrai que je suis à la base informaticien. Enfin, j'ai été dans l'automobile, mais bon, on n'est pas là pour en parler, pendant pas mal d'années, et je me suis reconverti en informaticien.
Donc, mais tu sais quoi? Je t'interromps déjà pour dire, oui. Tu illustres une partie de notre propos dans l'émission, rien qu'en disant ça. Parce que ce type de reconversion, c'est un truc qui nous paraît parfaitement normal et sur lequel on passe, peut-être même sans vraiment y prêter attention. Mais en partie, je déflore un peu la discussion d'après, c'est une chose qui n'était pas forcément normale il y a quelques générations et qui joue peut-être dans la problématique qu'on va évoquer. Mais pardon, je te laisse continuer donc.
Non, c'est exactement ça en fait dans le temps, mais on en reparlera. C'est le pourquoi, non. On en reparle. Donc, je suis Erwan Medoc. Je suis proche de 40 ans. J'ai 40 ans en novembre.
Très jeune.
Je suis dans une petite ville en Bretagne, proche de Brest, pour ceux qui connaissent, Gouesnou. 6000 habitants. Enfin, c'est pas une très grande ville. Et je suis technicien informatique pour une grande société où je déploie des postes en agence bancaire et en magasin. pour certaines marques. Et je suis également formateur spécialisé pour les seniors, effectivement. Pourquoi je me suis spécialisé là-dedans ? C'est que déjà, il n'y a pas grand monde qui ont la patience, parce qu'il faut avoir de la patience avec nos aînés. Et comme je dis toujours, en fait, j'ai l'impression d'aller aider ma grand-mère. Voilà. Mmh. Et ça me fait plaisir de le faire. C'est vraiment une passion.
Ça fait combien de temps que tu fais ce type de formation ?
Alors, j'ai eu une première structure il y a quelques années qui a duré 2 ans. Et j'ai été obligé d'arrêter. Il y a eu plusieurs choses. Et j'ai vraiment cette structure Finistweb. Je l'ai créée il y a 1 an. Vraiment, j'ai préparé les choses vraiment bien pour concevoir quelque chose des formations qui plaisent. Voilà, ça m'a pris un peu de temps, mais là, je me suis lancé il y a un peu plus d'1 an. Ouais.
Ok, super. Bah, écoute, c'est bien parce qu'effectivement, tu as une double casquette de spécialiste technique d'un côté, et tu as l'habitude, effectivement, donc tu as une légitimité dans ce domaine, et puis tu as l'habitude de la formation également. Donc, je pense que tu es la personne parfaite pour parler de ce genre de choses. Et commençons immédiatement, jetons-nous enfin dans le cœur du sujet. Je crois que la première chose, quand on préparait l'émission, tu m'as dit vraiment la première chose qui est importante à faire, c'est de faire le constat de la manière dont les seniors voient la tech, la manière dont ils appréhendent la tech. Donc, je suis curieux d'entendre ta vision de la chose, en fait. Dis-nous.
C'est vrai qu'on n'a pas vrai, quand on ne travaille pas avec des seniors, on n'a pas forcément l'idée, et on n'a surtout pas on sait pas vraiment ce qu'ils pensent, et on est vraiment loin de savoir ce qu'ils pensent. On pense que pour nous c'est tellement simple que on pense que pour eux ils sont un peu perdus, mais ça va, si on leur explique un peu, ça va. Mmh. C'est pas du tout ça. En fait, ils ont beaucoup de mal avec les nouvelles technologies. Ils comprennent pas la méthodologie, ils ne comprennent pas le mécanisme, ils ne savent pas trop comment ça marche. Ils sont perdus, ils se sentent impuissants. Il y a trop d'options pour eux, il y a vraiment trop d'options. On leur donne trop de choses, donc ça les perd.
Ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas juste qu'il y a un système dont ils ne connaissent pas les détails. C'est-à-dire que même le système en lui-même, ils ne le comprennent pas. C'est plus profond que juste savoir, tu cliques sur cette fenêtre, tu cliques sur tel bouton.
C'est ça.
Ouais, c'est que les fenêtres et les boutons, ils ne savent pas ce que c'est, quoi.
Si on leur dit de le faire, alors certains, si on va pas tirer de généralité, mais beaucoup...
Là, je crois qu'on peut dire d'une manière générale dans l'émission, évidemment, il va y avoir des exceptions. Il y a des gens qui sont plus âgés que moi et qui vont avoir une meilleure maîtrise de ces choses-là, c'est évident. Mais on parle de ton expérience et de peut-être une expérience qui est partagée par une grande partie de nos aînés.
En fait, ils savent, au fond d'eux-mêmes, ils savent le faire via leur expérience professionnelle pour certains. Mais leur mal profond, c'est vraiment une peur et une crainte de mal faire. Clairement, pour te donner une image, pour donner une véritable image, si je schématise, ils pensent qu'en cliquant à un mauvais endroit, ils vont casser leur machine.
C'est marrant, excuse-moi, je partage une expérience personnelle, mais mon père et ma mère, mon père qui est décédé il y a quelques temps, mais mon père et ma mère avaient une approche très différente de l'informatique. Mon père était complètement dans cette vision, et même s'il réussissait à s'en servir, il s'en servait tout le temps, il faisait beaucoup de boulot par mail, par navigateur, etc. Tout son boulot, évidemment, on ne peut pas travailler sans ça aujourd'hui, ou très difficilement, et... Ouais. Il y arrivait, mais il fallait lui montrer exactement sur quel bouton il fallait appuyer, etc. Et il avait peur d'essayer quelque chose. Donc, à chaque fois qu'il avait une question, il m'appelait. Ma mère, c'est tout le contraire. Tu lui dis, essaye. T'as essayé de cliquer quelque part, et elle clique partout, elle essaye, avec logique, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a cette appréhension. Le profil de ma mère, je crois qu'il est relativement rare. Généralement, il y a une appréhension, tu veux pas toucher, parce que j'ai l'impression, tu parlais de voiture tout à l'heure... Moi, je ne comprends rien aux voitures. Et dévisser un truc dans le moteur, j'aurais peur de tout casser. Tu me dis, c'est simple, tu changes la bougie et tu vires le carburateur et c'est réglé. Et là, je te regarde et je te dis, mais de quoi tu me parles, quoi ? C'est un peu ça.
C'est ça, C'est ça, tout à fait. Et en fait, il y a un autre mal profond qu'ils ont, c'est que pour la plupart, ils ont honte d'eux-mêmes. Ils se sentent dévalorisés parce que leurs enfants, leurs petits-enfants, des fois, mais très peu de leurs arrière-petits-enfants, bah, ils voient avec quelle facilité ils ont à utiliser ces outils. Mmh. Et ils se disent, bah, ah ouais, mon petit-fils de 5 ans, il y arrive, alors pourquoi pas moi ? Et ouais, c'est vraiment ces deux mal profonds hein, qu'ils ont, la peur et la honte un petit peu, si on schématise et si on résume.
Cette peur et cette honte sont donc liées à, bah, comme on le disait, la méconnaissance du sujet, mais on parlait un petit peu, là encore, avant de commencer l'émission, de quelle génération à quelle génération c'est arrivé, en fait. Et on va parler des causes dans un instant, mais je crois que c'est la génération d'avant la mienne, peut-être. Moi, je suis né dans les années 70 et donc j'ai grandi avec ça. Je crois qu'on parle vraiment... les gens qui ont l'habitude, c'est les gens qui ont grandi avec. Et fin 70, début 80, on était beaucoup sur les consoles, sur les premiers ordinateurs, etc. Et donc, on a une familiarité que non pas. Et donc, il y a cette génération d'avant qui ne maîtrise pas l'outil et pour qui c'est très obscur, c'est abscon. Mais c'est-à-dire, ce que je voudrais te demander, c'est quand tu présentes un ordinateur ou une interface graphique à une personne qui en a juste entendu parler à la télé ou qui l'utilise de temps en temps pour faire des mails, est-ce que tu pourrais nous donner une illustration de la manière dont ils sont perdus ? C'est-à-dire, quelle réaction tu as, quelle réaction ils ont quand tu leur dis, bah là, il faut ouvrir la fenêtre, ou enfin, tu vois concrètement ce que ça donne ?
Alors, si je faisais une image un peu qu'on a tous entendue, ouvrir la fenêtre, ils se déplacent et ils ouvrent leur fenêtre. Non, on va pas jusque là. Ben, en fait, c'est la génération années 50 et avant, fin années 50, qui n'ont pas du tout grandi avec d'outils technologiques visuels. En fait, la télé, effectivement, les ordinateurs. En 58, les premiers postes sont arrivés, une, deux chaînes, trois chaînes. On n'a pas l'habitude de se divertir avec un écran. On n'a pas du tout l'habitude. On est plutôt dans une démarche, en fait, où ils arrivent, quand les choses arrivent vraiment fort, en 70, en 80, les effets spéciaux, on se souvient tous de Tron 1982, énorme. En fait, ils voient ça d'assez loin, puisque eux, ils sont.
Tu veux dire que même ça, ça leur est étranger, quoi. Sans même parler d'informatique, de téléphone ou d'ordinateur, même la technologie en tant que concept, ça leur est un petit peu étranger. On exagère peut-être un peu.
Mais... À cette époque-là, oui. On est clairement dans les. En fait, entre 60 et 70, il y a très peu d'outils technologiques. À 1970, on est vraiment dans le début des jeux vidéoludiques, des ordinateurs personnels, mais très peu de marketing autour. Hein. On est vraiment... donc, ils ont leur métier, ils voient ça d'assez loin, ils nous voient manipuler ça assez loin, et ils sont dans une autre logique. Et bien, arriver à... ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas cette initiative, et ils sont vraiment dans une situation... où bah, ils vont essayer de comprendre, mais ça ne leur parle pas, alors que nous, bah, on a été habitués à ça, et les marketeurs l'ont bien compris. Les premières pubs, je me rappelle de la première pub de l'Atari, par exemple, l'Atari 2600, c'était quelque chose de magique, et ils nous parlaient à nous, pas à nos parents.
Oui. En fait, tu parles des années 70-80, et c'est vrai que c'est là que ça a commencé, mais de fait, il faut bien se rendre compte que les gens qui ne l'utilisaient pas parce qu'ils étaient passionnés ou que c'était leur loisir pour l'informatique en général ou le jeu vidéo, ils n'ont commencé à devoir se mettre au mail qu'avec la démocratisation, au mail, à l'informatique, qu'avec la démocratisation d'Internet. L'utilisation pour le boulot du mail, et donc on peut parler, si on était un petit peu réfractaire, fin 90, début 2000. Donc ça fait.
C'est ça, avec peine... l'arrivée d'Internet. Ouais,
ouais, donc ça fait à peine 20 ans, quoi. Donc,
ça fait à peine 20 ans. Ça fait à peine 20 ans, c'est fou.
Ce que ça me fait constater, c'est que oui, nous, on va dire, bah, c'est bon, la technologie 70-80, c'est déjà là. Ça fait 40 ans, ils ont eu le temps de. Tu vois, quelqu'un qui a 70 ans, c'est arrivé quand ils avaient 30 ans. Non, en fait, non. C'est arrivé quand ils en avaient 50. dans la réalité. Donc oui, c'est vraiment quelque chose encore qui est arrivé très tard pour beaucoup de nos seniors et qui est encore très relativement jeune. Peut-être qu'ils étaient pas trop trop loin de la fin de leur carrière avec 20-30 ans d'habitude. Ouais, on peut comprendre vu comme ça que ça soit plus difficile à aborder, quoi.
Et il y a une chose aussi, en fait, ils ont aussi, il y a eu dans les entreprises, dans leur métier, ils ont eu l'accès à ces outils-là, aux premiers ordinateurs. Mais c'était pour faire quelque chose de précis. Mmh. En fait, on leur expliquait ce qu'ils avaient à faire, ils le faisaient, ils étaient guidés, en fait, en quelque sorte. Et on était encore loin de l'ordinateur personnel, l'ordinateur amusement. Ça vient de là aussi, en fait. C'est vraiment un peu plus profond que « Ah bah oui, c'est bon. » Effectivement, comme tu disais, ça fait que 20 ans. Ouais. Et nous, quand on était gamin, enfin moi, quand je suis né en 80, quand j'étais gamin, bah on avait ces habitudes-là. On commençait à jouer. Ouais. On commençait à avoir l'usage. Et pour nous, c'était divertissant. Eux, c'était une obligation.
Ouais, ouais. C'est pas la même approche du truc.
C'est pas la même approche.
Il y a un autre truc qui est hyper intéressant parce que déjà ça c'est un niveau de difficulté, mais tu parles également des causes de cette difficulté, de ce mal à vraiment apprendre, parce que nous on pourrait avoir tendance à se dire bah moi il y a des trucs qui ont changé il y a 5 ans, bah je m'y suis intéressé, j'ai appris et maintenant je maîtrise. Et donc, on pourrait se dire, bah oui, mais pour eux aussi, ça va, ils 50 ans, t'es pas dans la tombe encore, t'as le temps d'apprendre. Mais tu as fait un constat qui est hyper intéressant, qui pourrait également expliquer cette... C'est pas une question d'être réfractaire, mais cette difficulté à appréhender ces changements. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu.
Effectivement, si on voit leur rapport vraiment avec le rapport qu'ils ont avec la tech. Et effectivement, ça peut valoir les causes. C'est-à-dire que la génération de nos aînés entrait dans un métier et c'était pour faire leur carrière, c'est-à-dire aller jusqu'à la retraite. C'était très mal vu, quelqu'un qui changeait de métier. Pareil, on naissait quelque part. On allait très peu loin, on était souvent dans le même village. On a toujours dans la tête cette idée de la personne qui reste de la naissance à la mort dans le même village. C'était souvent ça. Le divorce était très mal vu. Donc, si on résume tout, le changement, il n'y en avait pas. Mmh. Ils n'étaient pas habitués au changement. Mmh. Alors que si on prend notre génération, on n'a plus de métier carrière, ça n'existe. Alors, il y a les cas, bien sûr. Il y a des cas, bien sûr. Et c'est d'ailleurs ces cas-là qui ont le plus de mal avec les nouvelles technologies, en fait. Mmh. C'est parce que nous, on est tellement habitués au changement. On change de ville. Par exemple, si je prends l'exemple des nomades digitaux, on change de pays, on change de métier, on change les divorces. Il y en a de plus en plus. On change de tout. Donc, on s'habitue à des nouvelles choses. On va mettre en place. Notre cerveau est un peu programmé à aller rapidement, à s'adapter aux choses. Que nos aînés, n'ayant jamais eu à s'adapter à des changements, ont beaucoup plus de mal. Et on le voit avec les nouvelles générations aussi, les nouvelles générations qui sont ancrées dans un lieu, qui ont cette optique-là de faire d'entrer à l'âge adulte dans une société et de finir leur carrière dans une société, ces gens-là ont également beaucoup de mal à s'adapter aux changements. Oui. Et l'informatique... On le sait tous, évolue très vite. Si on regarde un ordinateur des années 2000 et un ordinateur d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Rien.
Ouais, ouais. C'est sûr que c'est donc un constat qui est hyper intéressant parce que c'est pas uniquement une question d'âge. Et le fait que nous, on puisse dire « bon, nous, on s'habitue à tel et tel truc, ça va, ils pourraient étudier 2 secondes », c'est pas juste ça. C'est pas juste que tu peux l'étudier 2 secondes et que... Enfin, 2 secondes, ou passer une journée à chercher, à traficoter ou à ce que quelqu'un t'explique, et tu vas comprendre. C'est qu'il y a un cadre, un framework presque, j'ai envie de dire, pour utiliser un anglicisme informatique, mais qui est différent. Et ça s'ajoute aux autres difficultés dont on a parlé. Donc vraiment, c'est pas juste. En gros, ce à quoi ça revient, c'est que ce n'est pas juste une question de bonne ou de mauvaise volonté. C'est qu'il y a tout un apprentissage, tout un formatage presque, que nous, on a eu au cours de nos années formatives, de quelques décennies, qu'il ne suffit pas d'ingurgiter en une semaine. Et puis c'est bon, maintenant, tu comprends. Alors, on parle beaucoup des difficultés. Ça ne veut pas dire non plus que c'est impossible et que les seniors ne peuvent pas apprendre, j'en suis sûr.
Non, ils peuvent apprendre, mais ce n'est pas du tout la même approche, en fait. Beaucoup de formateurs ont ces formations préconçues et préfaites pour tout le monde, sauf que très peu se mettent à leur place. Mais en fait, si on va toujours parler du rapport hein, Senior Tech, mais aussi pourquoi on est comme ça, parce que aujourd'hui, alors que nos aînés, pendant des générations, ils nous ont transmis leur savoir. On a tous l'image du grand-père qui essaye qui apprend à scier à son petit-fils ou à souder ou voilà des métiers manuels où c'était leur passion de nous transmettre des choses, leurs connaissances, leur savoir dans les métiers. Les anciennes générations qui sont encore là pensent à faut que tu fasses ci, fasses ça. Ils essayent de transmettre leur savoir. Aujourd'hui, nous on a un savoir qu'ils n'ont pas. Ils ont très peu ce savoir-là sur l'ordinateur. Et ils se retournent vers nous. Ils nous disent, on ne comprend pas. Ils se retournent vers nous. Et nous, aujourd'hui, la société est faite que tout va très vite. Entre guillemets, individualiste. Et on n'a pas le temps de leur expliquer. Et je suis sûr qu'au fond de nous, on n'a pas vraiment l'envie de les aider. Puisqu'on va les aider, on va se dire, tiens, tu fais ci, tu fais ça. Ah, mais oui, je t'ai déjà expliqué la semaine dernière, tu devrais comprendre. Et on n'essaye pas de se mettre à leur place, en fait. Donc c'est ce gap-là qui est un peu dommage, en fait. Le fait qu'ils se sentent un peu démunis, ils ont tout donné, mais en retour, ils n'ont pas grand-chose.
Il faut avouer qu'on en plaisante souvent un petit peu partout. On se dit « je vais voir mes parents ce week-end, ça va être la session
Oula,
de… »
Madame Michu.
Ouais, voilà, la fameuse.
De l'époque Upload.
Elle-même, mais ouais. Ça va être la demi-journée perdue à nettoyer l'ordinateur, à expliquer comment on fait ça, à faire… Et je pense qu'on le fait tous, mais il y a quand même un petit peu de ressentiment. On le fait, on n'a pas envie, on se sent forcé.
Ouais.
Et on est un peu, si on est super honnête avec nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi ils ont besoin de nous et pourquoi ils ne font pas eux-mêmes. Donc, il y a un peu de ressentiment, quoi.
C'est ça. Et en fait, la plupart des gens pensent que pour les aider, ils vont s'occuper de la machine, ils vont faire, on a fait, on s'occupe. Mais la personne qui est derrière nous, nos parents, on nous ont vu faire. Mais sauf que voir faire et faire, il y a une différence. Je pense qu'il faut plus savoir, écoute, essaye de faire, je te montre, je te guide, et ça va peut-être changer ta façon d'apprendre.
Ah, c'est... Je pense qu'on a tous envie de dire donne un poisson à quelqu'un, tu le nourris un jour, apprends-lui à pêcher et tu le nourris... pour le reste sa vie. Mais ensuite, ça c'est bien beau de dire ça, mais c'est pas facile non plus d'apprendre toutes ces choses-là, justement, pour toutes les raisons qu'on a évoquées.
Il faut être très patient, c'est la patience. C'est la patience qu'on a peut-être oublié d'ailleurs, d'être patient.
Hello à tous, je suis en vacances, mais je reviens un petit moment vous embêter dans l'épisode parce que je voudrais vous parler du sponsor de cet épisode, justement, au lieu de vous parler du message, de faire mon petit message Patreon comme d'habitude. Oui, parce que c'est Patrick, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà oublié le son de ma voix, mais c'est moi. En fait, la raison pour laquelle je fais ça, différemment de ce que je fais d'habitude, c'est que le sponsor de cet épisode, c'est ExpressVPN. Et c'est un produit, c'est un VPN que j'utilise depuis un moment et dont je suis hyper satisfait. C'est la meilleure expérience de VPN que j'ai eue et j'en ai essayé quand même un bon paquet. Et du coup, moi, je suis allé les voir, je leur ai dit, c'est moi qui suis allé les démarcher, en fait. Je leur ai dit, vous voudriez pas sponsoriser l'émission? Ils m'ont dit, ouais, ok, pas de problème, banco. Et donc, ça me fait hyper plaisir parce que c'est un produit que j'apprécie particulièrement. Et à la base, alors, pour en parler plus précisément, il a évidemment tout ce qu'on peut espérer d'un bon VPN, c'est-à-dire des serveurs partout dans le monde, un chiffrement béton, il garde aucun log de ce que vous faites, donc vie privée respectée, il est dispo sur tous les appareils, desktop, mobile, etc. Donc là, vous êtes couvert, et il y a pour moi deux fonctionnalités en particulier que j'ai particulièrement appréciées. Ça fait deux fois particulièrement, mais c'est à quel point ça m'a plu. D'une part, la vitesse de connexion, quand on appuie sur le bouton de connexion jusqu'à ce qu'on soit connecté, est, de mon expérience, beaucoup plus rapide qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'en 5 secondes, entre le moment, généralement, en 5 secondes, je suis connecté à mon serveur distant, alors que souvent, chez les autres, ça prend 15, 20, 30 secondes. Et ça, c'est une expérience qui pousse, en fait, à ne pas l'utiliser. Je me dis, c'est tout bête, hein, mais si je vais devoir attendre X temps avant d'être connecté, bah attends, ok, je ne vais pas le faire. Bah là, c'est hyper simple, donc je l'utilise plus. La connexion est hyper rapide. Et bien sûr, je ne parle pas de la bande passante qui est rapide aussi, mais là, la vitesse entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où on est connecté. Un truc tout bête que j'ai énormément apprécié. L'autre truc que j'ai énormément apprécié, c'est le split tunneling. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un moyen de décider quelles applications vont utiliser ou non la connexion VPN. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux navigateurs, appelons-les navigateur A et navigateur B, et l'un va utiliser la connexion VPN et l'autre va utiliser votre connexion classique, même s'il n'y avait pas de VPN. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un VPN activé, connecté au Japon, par exemple, à tout moment, et il n'y a qu'un navigateur ou d'autres programmes, hein, mais par exemple, un navigateur qui l'utilise et tous les autres passent par votre connexion classique. Donc, si vous souhaitez avoir un navigateur ou un programme qui va utiliser la connexion vers un autre endroit et plus sécurisé, etc., bah, vous pouvez la laisser connecter en permanence et même plus vous en soucier. Et si vous voulez avoir, évidemment, il est possible d'avoir par défaut votre connexion entière qui passe par le VPN. Et donc là, tout passera par le VPN, mais vous avez le choix. Et ça, j'ai trouvé ça hyper pratique. Et encore une fois, ça me pousse à l'utiliser plus. Donc voilà, vous l'aurez compris, moi, ExpressVPN, c'est vraiment deux pouces vers le haut. Et évidemment, pour une promo comme ça, il y a une URL dédiée. Donc expressvpn.com/rdvtech. Vous pouvez y aller pour avoir 3 mois supplémentaires gratuits sur un forfait d'un an. Donc vous avez un bonus. Moi, évidemment, ça leur dit que vous avez entendu parler d'eux par mois. Donc ça m'envoie un bonus aussi. Et eux, je pense qu'ils sont contents d'avoir un nouveau client. Donc cercle vertueux. expressvpn.com/rdvtech. Le lien sera aussi dans les notes de l'émission, mais franchement, moi je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, et je dis pas ça souvent. Donc expressvpn.com/rdvtech si ça vous plaît, et vous pourrez me dire l'expérience que vous avez eue, par exemple, ça serait marrant d'en discuter. Je vous laisse retourner vers l'émission et je vous fais de grosses bises. Moi je retourne en vacances. Ciao ciao.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais alors, justement, écoute, venons-en à la partie la plus importante, même si les constats sont importants aussi.
Oui.
Imaginons, ému par ta diatribe, des auditeurs se disent, mais bon sang, mais Erwan a raison, il faut que moi je fasse plus d'efforts et que j'apprenne à mes aînés de manière un petit peu plus systématique. Du coup, quels sont les, je ne sais pas si c'est des conseils ou des méthodes que tu peux donner pour aider les gens à vraiment mieux appréhender le rapport des seniors et de la tech. Que faire pour leur apprendre, quoi?
Je parle toujours de patience. Déjà la base, c'est il faut être patient. Il faut pas s'énerver si la personne se trompe. Je vais vraiment mettre des guillemets dans ce que je vais dire, mais il faut être comme un prof de maternelle. On n'apprend pas à compter à un enfant en s'énervant et en n'étant pas patient. Donc c'est vraiment des guillemets,
je vous confirme, avec mon fils, je vous confirme que si on s'énerve, ça ne sert absolument à rien.
Faire pleurer, mais c'est dommage.
Oui, c'est ça, voilà, c'est le seul résultat.
Mais donc c'est vraiment cette aptitude qu'il faut avoir, vraiment la patience, et il faut arrêter en fait de les former, d'essayer de les former à des méthodes conventionnelles de formation qui sont faites pour nous, des tutos qu'on voit sur YouTube, ça ne leur parle pas. Il faut se mettre à leur place, il faut se mettre dans l'idée que on ne sait pas faire, et on montre calmement et simplement les choses. Et bien sûr, il faut leur dire aussi, écoute, si je t'ai montré, si tu ne fais pas l'effort de pratiquer un petit peu tous les jours, ou un petit peu, il faut vraiment qu'ils fassent cet effort-là aussi d'apprendre et de pratiquer, parce qu'il n'y a qu'avec la pratique qu'on va apprendre à faire les choses.
Mais du coup, je vais te poser une question. Moi, j'avais tendance à remonter assez loin quand j'expliquais les choses, de manière aussi simple que possible, mais j'allais carrément apprendre qu'est-ce qu'un disque dur, qu'est-ce que la RAM, qu'est-ce que le clavier, la souris, l'écran conceptuellement, en 5 minutes, parce que le but n'est pas non plus de... Je sais qu'on peut souvent, quand on est un petit peu technicien, noyer les gens dans de la technicité. Mais si on n'explique pas... Alors tu vas me dire si j'ai raison ou tort. Mais si j'explique pas la différence entre un disque dur et de la RAM, la personne va avoir du mal à comprendre quand je lui dis vas-y, lance le programme qui est installé. Installé où? Qu'est-ce que ça veut dire? Lance le comment? Tu vois, c'est une...
Alors, dans une partie, tu as raison, mais je pense que savoir ce que c'est de la RAM, savoir ce que c'est
peut-être
un PROS...
Peut-être juste un disque dur, disons.
En fait, il faut qu'ils comprennent, et moi, j'image vraiment ça, il faut qu'ils comprennent que le disque dur, c'est une boîte. Dans ce disque dur, dans une boîte, on peut mettre plusieurs boîtes, et on peut mettre aussi un crayon, on peut mettre une feuille. Et dans la boîte qu'on vient de mettre dans la boîte, on peut mettre une autre boîte, etc.
Et, ouais, donc tu utilises vraiment des images qui leur parlent.
Je leur symbolise la poupée russe, c'est une bonne symbolique. La dernière fois, exemple concret, chez une de mes clientes qui a plus de 80 ans, donc on va des fois loin, j'ai pris un bol et des sucres. Et je lui ai dit, le bol, c'est votre disque dur, et les sucres qu'on va rajouter, c'est des dossiers. Voilà, les sucres, c'est des dossiers. Et elle a un petit peu compris. Mais il faut vraiment parler d'image. Il ne faut pas aller sur la technique. Il faut vraiment leur donner une image et leur donner des choses qu'ils comprennent. Si la personne aime la couture, on va parler d'image de couture. Ça va beaucoup plus lui parler si on parle de technique.
C'est marrant parce que tu me donnes ces images-là et j'ai l'impression, en fait, j'ai le rappel, un petit peu comme l'histoire des voitures et des moteurs que je ne comprends pas. J'aime beaucoup l'astrophysique, la physique quantique, et je regarde beaucoup de vidéos sur le sujet. Et c'est vrai que c'est des principes très obtus. Et au début, quand tu commences à regarder sur YouTube ce genre de choses, on te sort des termes qui ne veulent absolument rien dire.
Et c'est totalement abstrait pour nous. Quand
et
on
de fait,
quelque chose,
c'est ça, si je dis disque dur à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce dont il s'agit, il vaut bien mieux parler de boîte, parce que la boîte, tu sais ce que c'est, donc tu as un concept auquel tu peux te raccrocher, tu as un rapport avec, et c'est une simplification qui, effectivement, doit être importante, quoi.
Effectivement, je pense que la voiture va peut-être plus parler aux gens. Si je te parle de cils en bloc, tu sais pas ce que c'est. Si je te parle de caoutchouc,
ouais.
Tu vois ce que c'est, le caoutchouc? Bah, c'est, on appuie dessus, ça se comprime, compresse un peu. Donc là, tu as un peu plus l'image, effectivement. Aller dans les images.
Donc effectivement, première chose, aller dans les images auxquelles ils peuvent se raccrocher. J'ai envie de te demander à quelle vitesse il faut aller. Est-ce que c'est... il faut genre... peut-être même encore plus qu'à quelle vitesse il faut aller, si la personne veut envoyer un mail. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, peut-être un petit peu accéléré, de comment tu vas expliquer comment envoyer un mail ? Parce que, imaginons que ça soit un webmail, il faut déjà lancer le navigateur, aller sur le site en question, écrire le mail, écrire l'adresse de la personne à qui tu veux l'envoyer, et envoyer le mail. Alors là, c'est 5 étapes qui nous paraissent enfantines à nous. Pour une personne qui n'a pas l'habitude, c'est, j'imagine, plus compliqué. Comment tu fais ?
Tout dépend d'où on part. C'est vrai que la personne peut ne pas savoir envoyer un mail, mais a déjà des outils sur son ordinateur. Beaucoup ont Thunderbird. Beaucoup. Si je fais un pourcentage, c'est à peu près 70% de mes clients qui ont installé Thunderbird. C'est assez marrant.
Mais alors, pour ceux qui ne savent pas, parce que déjà, c'est un peu d'une autre époque, mais Thunderbird, c'est un client mail, donc programme un petit peu lourd, qui n'est pas dans le navigateur. Donc, c'est un client indépendant, non. Un petit peu comme Apple Mail ou Mail sous Windows. Mais j'ai l'impression que dans notre génération ou dans les générations plus récentes, maintenant, on est tous sur Webmail. Donc, ça fait partie du navigateur. Peut-être que ça les rassure de se dire, mon mail, il est là. Et quand je veux aller sur le mail, sais sur... C'est ça. Hein.
C'est ça. Alors, pour répondre vraiment à ta question, si j'ai le client qui veut envoyer un mail et la solution... La plus simple, c'est quand même un webmail. Il faut faire un paramétrage à la base parce que on va pas. Nous, on a 30 ans d'expérience derrière nous, donc on sait faire les choses très vite. On va pas pouvoir leur expliquer toutes les procédures, tout comment ça marche, etc. Il faut les aiguiller. Donc, en gros, ce que moi je fais, c'est que je configure sur leur bureau un raccourci directement sur le navigateur. Et comme ça, je dis, cliquez dessus. Vraiment, vraiment, si la personne a envie c'est juste ça la formation. Si j'ai juste envoyé un mail et qu'il n'y a pas beaucoup de temps et que le budget non plus le permet pas, j'installe du coup le raccourci. Souvent, ils ont des boîtes Orange, donc c'est sur le mail Orange.
Mmh, c'est marrant comme je retrouve tout. Je pense que les auditeurs qui nous écoutent doivent tous se dire. Ouais, tout à fait. Thunderbird, Orange, oui, effectivement.
Et oui. Et donc, le raccourci est là, ils cliquent dessus. Et après, je ne leur explique pas toute la fenêtre, parce que ça ne sert à rien. Je ne leur explique pas comment aller comment paramétrer des boîtes mail. Ils s'en fichent, ils n'ont pas forcément l'envie. Tout ce qui est dans les menus, dans les accueils, insertion, concept, ils s'en fichent. C'est vraiment, ils veulent aller à l'essentiel, donc je leur explique les icônes principaux, et je leur dis surtout que, généralement, les icônes sont faites pour être universelles. Une icône d'imprimante, quel que soit le logiciel ou quel que soit le webmail, c'est quasiment la même. L'icône qui va permettre d'envoyer, c'est souvent une flèche qui va permettre... Donc, je leur explique vraiment ces icônes-là, comment les repérer. Je leur explique les champs qu'il faut remplir.
À quoi sert le champ de destinataire, le champ du texte, etc.
Et pas vraiment plus, parce qu'ils n'ont pas forcément le besoin d'avoir plus. Une personne, aujourd'hui, va utiliser 5% de l'utilisation de la machine, et ça leur suffit.
C'est à vrai dire,
envoi mail et navigation.
Ouais.
Et photos. Et photos, transférer des photos, effectivement. Ça va s'arrêter là.
Tu dis 5% pour les personnes, je pense que ça s'applique à tout le monde, peut-être 10% pour la plupart des gens, mais c'est vrai que la plupart des utilisateurs, quels que soient leurs âges, n'utilisent vraiment qu'une toute petite partie des possibilités de l'informatique. Du coup, effectivement, tu te concentres sur des choses très pratiques, très
ciblées. Des choses essentielles, tout à fait. Et en fait, ma façon vraiment d'interagir avec eux, quand je vais chez mon client, ma façon de procéder, en fait, pour vraiment t'expliquer, quand je vais chez mon client, j'ai pas de formation faite.
Ouais.
Et je n'ai jamais de formation qui sont faites. Parce que moi, je crée une formation ça va pas être 100% adapté à eux. Il va y avoir des choses qui... On va les noyer. Donc, première chose, c'est un discours. Qu'est-ce qu'ils veulent apprendre? Deuxième chose, c'est posez-moi les questions qui vous perturbent. Et là, je vous réponds et je vous explique et on s'entraîne. Et après, après le cours, là, je fais un tutoriel de ce qu'on a vu véritablement. Voilà comment ma méthode, en fait. Et ça marche plutôt, plutôt bien.
Est-ce qu'il y a des grandes différences entre les différentes personnes que tu vas voir? J'imagine que oui, mais...
Oui, oui. Alors, on part à la... On peut partir de je ne sais pas utiliser un clavier souris.
Ah oui, carrément.
Ah oui. Il y a des gens, le concept d'une souris... Bah, j'ai une espèce de boîte sur mon... avec un fil. Comment ça se fait qu'un curseur se déplace sur un écran? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais, il faut... Là, c'est des formations qui peuvent être un peu compliquées, mais on y arrive. Mais on y arrive. Ma cliente, j'ai une cliente de 83 ans, effectivement, qui a voulu se servir d'un ordinateur, mais ne savait pas du tout s'en servir, n'avait jamais touché un ordinateur. Donc, et je suis arrivé à ce qu'elle puisse faire des recherches sur Internet et envoyer des mails. C'est magique. Quand on arrive à ce résultat-là, c'est magique et on est fiers. Mais après, il y a des anciens... J'ai même un ancien informaticien qui m'a demandé des cours.
Ah oui.
Parce que ça faisait 15 ans qu'il était à la retraite. Et il travaillait sur des logiciels hyper spécifiques, hyper poussés. Donc son niveau informatique était bien supérieur au mien. Mais il ne savait pas, il ne comprenait pas les nouveaux outils. Comment envoyer un mail, c'est bizarre. Voilà, ils ne comprennent pas le cloud. Le cloud, c'est étranger pour eux.
Je pense que de tout ce qu'on dit, il y a quand même des choses qui se retrouveraient chez des gens beaucoup plus jeunes, peut-être même chez des super jeunes, comment dire, chez des, pas des ados, mais des tout jeunes qui ne comprennent pas vraiment le fonctionnement et qui comprennent la chose de manière simplement fonctionnelle. Là, on appuie sur tel bouton, ça fait ça. Alors, ils ont beaucoup l'habitude, donc ils vont vite. Mais ils n'ont pas plus la compréhension de comment fonctionne vraiment un outil informatique ou un programme ou une app que moi, je ne comprends vraiment comment fonctionne la voiture. Encore que j'ai des compréhensions de base, des principes de la mécanique. Mais du coup, ça m'amène à te poser la dernière question que je voulais te poser. Comment est-ce que ça se passe avec les outils mobiles, type tablette et téléphone? Si on veut aller dans l'extrême simplicité, on va aller du côté d'Apple, qui sont quand même les outils les plus faciles à appréhender, surtout quand on ne les utilise que pour certaines choses spécifiques. Est-ce que ça simplifie les choses? Est-ce que les seniors, ils sont aussi étrangers qu'un Windows ou un macOS ou un Linux? Comment ça se passe avec un iPhone?
Avec un iPhone, il n'y en a pas beaucoup qui sont sur Apple. Très peu, de ce que je vois en tout cas. Après, il y a peut-être... Mais je ne sais pas la part d'Apple d'ailleurs, la part d'iPhone... De seniors qui ont des iPhones, je sais pas, mais c'est un concept encore différent et ils n'arrivent pas à faire le lien entre l'ordinateur. En fait, ce qui est assez dommage, c'est que on leur a mis dans les mains des ordinateurs qu'ils ne savent pas maîtriser et on leur dit bah non, utilisez plus les ordinateurs, utilisez une tablette ou un téléphone. Et là, c'est un usage.
Faut tout réapprendre.
Quand on comprend la technologie, finalement, nous, on a quand on comprend comment ça se passe, c'est pas si loin, c'est pas si étranger. Le doigt remplace la souris, enfin, si je schématise, c'est des mécanismes qu'on arrive à assimiler. Mais eux ne font pas le lien, c'est totalement étranger, c'est une nouvelle façon d'agir qu'ils ont, une nouvelle façon de comment je déplace, comment je clique, qu'est-ce qui se passe. Ils sont autant perdus. Non, peut-être pas autant perdus. Non, c'est faux. Ouais. Ils sont un peu moins perdus, c'est-à-dire qu'ils arrivent à peu près à faire des choses, mais pour transférer des photos sur un ordinateur, pour savoir comment mettre des applications, pour paramétrer des comptes. En fait, si on résume, on leur donne trop d'options.
Ouais. Clairement. Mais même avec, du coup, un téléphone, je pense que de notre point de vue en tout cas, mais je pense que c'est assez objectif, un téléphone, c'est plus simple à utiliser qu'un ordinateur, parce qu'un ordinateur, c'est hyper compliqué à utiliser. J'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est que, en fait, un ordinateur, si on se limite aux fonctions de base, bah, en fait, ce n'est pas plus compliqué à utiliser qu'un téléphone. C'est juste que le téléphone, on ne peut pas aller plus loin. Mais quand on part de zéro, parce qu'en fait, moi, mon instinct me dirait, bah, tant qu'à faire, autant apprendre à utiliser un téléphone qui est plus simple, parce que ça va être moins effrayant, moins intimidant, etc. Mais ouais, toi, ce que tu me dis, c'est que si on se limite aux fonctions de base de l'ordinateur, bah, en fait, c'est pareil, quoi. Et c'est tout aussi difficile.
Si tu vois ton bureau, il y a des applications comme le bureau d'un téléphone, enfin, comme l'écran d'accueil d'un téléphone, il y a des icônes. Si on va sur le menu démarrer un petit peu pour avoir toutes les applications, sur Android, on a la galerie d'applications. Donc, si on se limite au fonctionnement basique, on est assez proche d'un ordinateur. D'ailleurs, quand on va sur Android et qu'on a le bureau, quand on le broche sur un écran, bah, on est un peu comme sur un ordinateur, en fait. Mais on reste sur Android. Donc, c'est proche. Pour eux, c'est vraiment cette peur de casser. C'est vraiment cette peur qu'il faut gommer. C'est cette peur, en fait, ils savent faire finalement au fond d'eux, parce que beaucoup ont un exemple. Beaucoup, en fait, quand je leur explique, souvent, moi, je fais pas, j'explique et eux font. En fait, c'est ça ma méthode. Ils vont faire et je leur explique. Et en fait, quand ils vont faire la première chose qu'ils font, elle est bonne. Et ils se disent, ah non, c'est pas ça. Et je change.
Ah ouais, d'accord.
Ils se font pas confiance, ils ont peur, et c'est là où tous les problèmes qu'ils ont. Quand on leur donne la méthodologie, même quand on leur donne la méthodologie, c'est cette peur et cette crainte de mal faire qui les bloque.
D'accord, bah écoute, je suis assez surpris en fait de constater après toutes tes explications qu'un téléphone n'est pas plus simple à utiliser parce que les problèmes et les blocages sont les mêmes quel que soit le...
Il y a des réglages dans les deux et ils se disent, faut que je maîtrise tout, faut que j'aille dans le... je sais pas faire des... Mais ils ont pas besoin, finalement.
Moi, je me suis rendu compte, avec ma mère notamment, que quand on veut installer un nouveau téléphone, bah mine de rien, il y a plein de choses à faire. Il faut créer un compte iCloud, peut-être, l'installer sur le truc, installer les... Enfin, paramétrer les emails, enfin, il y a... Un petit peu moins que sur ordinateur, mais pas beaucoup, beaucoup moins. Je pense quand même qu'un ordinateur, il y a plus de potentiel pour faire des conneries. Tu déplaces une icône, tu la mets dans un dossier que tu ne retrouves pas, où est passé mon fichier,
mais
machin.
Tout est rattrapable finalement.
Bien sûr.
Ce qui est assez marrant, je pense que les auditeurs l'auront vu, on voit le biais. Moi, quand je parle de smartphone, je parle beaucoup d'Android, et toi
je parle beaucoup d'iOS, ouais.
On a un petit biais, je pense. Mais bon, on ne va pas refaire la guerre PC-Mac.
Non, mais disons que c'est vrai que le reproche qu'on fait à iOS, c'est que ça te prend trop la main, en fait. Et donc, forcément, je me dis que c'est plus adapté à des personnes qui maîtrisent moins l'outil informatique. Mais de fait, je l'ai constaté par moi-même, quand on part de zéro, même cette complexité réduite, et il y a tellement de choses à apprendre que bah, c'est peut-être pas si différent d'apprendre les choses sur un ordinateur plutôt que sur un téléphone. Pardon. Donc, les deux sont à peu près comparables.
Et je me rappelle aussi d'une image, je la prends souvent et je l'explique souvent à mes clients, une image que tu avais faite, entre Apple et Android. Tu disais, Apple, c'est comme aller à l'hôtel. On n'est pas chez soi, mais tout est bien rangé, tout est bien. Je sais plus si ça vient de toi ou de Jérôme.
C'est Jérôme, j'allais te le dire à l'instant. C'est notre ami Jérôme
qui a Android, Android, tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Et moi, je l'utilise beaucoup. En fait, il y a beaucoup d'expressions que je vous repique. Les gens le savent pas. Maintenant, ils vont le savoir. Mais ouais, vous aviez eu à l'époque. J'ai écouté toutes les émissions et j'ai écouté plusieurs fois toutes les émissions. Je me suis repassé les rendez-vous tech Je crois que je suis rendu à la troisième écoute de chaque épisode.
Ouh là là, d'accord.
Ouais. Écoute. Ah non, c'est quand j'étais beaucoup dans la voiture, ça passait le temps. <C'était... rire>
Bah écoute, je pense qu'on arrive au bout avec cette excellente conclusion qui est l'idée d'écouter plusieurs fois les émissions. Hein. Je l'approuve totalement. On arrive un petit peu au bout de notre discussion. Avant de se quitter, peut-être, est-ce qu'on pourrait résumer les choses à retenir quand on veut essayer d'apprendre tout ça à une personne qui ne maîtrise pas l'outil, et pour toutes les raisons qu'on a expliquées, encore plus dans le cas des personnes qui sont un petit peu plus âgées. Ce que je retiens, moi, c'est qu'il faut utiliser des images qui leur parlent, des images et des concepts qu'ils connaissent déjà pour illustrer les propos des concepts un petit peu plus abstraits de l'informatique. Il faut se limiter à ce qui est nécessaire. Ne pas leur apprendre plus que ce dont ils ont besoin, les encourager à faire eux-mêmes.
C'est ça, tout à fait. En fait, pour vraiment une phrase, je vais faire une phrase juste pour résumer tout ce qu'on vient de dire, les solutions pour les faire progresser, entre guillemets, il faut être patient, se mettre à leur place, ne pas essayer de les former avec des méthodes traditionnelles et conventionnelles que nous, on a. Faut les écouter, les rassurer, vraiment les coacher. Je me demande si même est-ce que c'est plus du coaching qu'il faut faire plutôt que de la formation. Et en fait, sur leurs problèmes précis, il ne faut pas essayer de leur inventer des problèmes, ils en ont déjà assez. Vraiment un problème précis, et il faut leur donner les clés pour déverrouiller leur blocage. Si on est patient, si on sait les écouter, si on les rassure, on a fait déjà un gros, gros travail.
D'accord. Mais de manière plus concrète, moi, je suis un petit peu trop gourmand, je t'en demande plus. De manière très concrète, c'est effectivement, si tu dois dire aux gens, bon, les écouter, oui, ok, se mettre à leur place, d'accord, être patient, très bien. Mais de manière concrète, utiliser des images qui leur parlent, se limiter au nécessaire, pas leur en donner plus et les encourager à faire eux-mêmes. Est-ce que c'est les trois conseils pratiques que tu donnerais, ou est-ce qu'il y en a un autre que j'oublie, ou deux ?
C'est les trois vraiment principaux qu'il faut faire pour leur permettre de réussir, effectivement. Et le plus important, c'est de laisser faire. J'ai des clients qui ont eu des formateurs. Les formateurs s'asseyaient à leur poste, ils étaient à côté, ils prenaient des notes, et le formateur faisait tout à leur place. Là, c'est la pire chose qu'on peut faire.
D'accord. Ok, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Erwan, pour cette
longue
discussion. Avant de se quitter, bien sûr, je voudrais que tu nous parles un petit peu de toi. Tu me disais, encore une fois, en préparant l'émission, que tu as un projet sur un site de financement participatif bien de chez toi.
Ah, bien de chez moi, ouais, tout à fait. Ça s'appelle Kengo. C'est une plateforme de financement participative, comme il y en a beaucoup, et c'est un projet, en fait, d'avoir un local pour que les gens viennent se former, mais spécifiquement pour l'instant, c'est un test que je vais faire sur Gwenou, où j'habite, en fait. Gwenou, une ville proche de Brest, comme j'ai dit au départ, où ces personnes-là peuvent avoir un appui sur leurs problèmes technologiques. Aujourd'hui, surtout en mode Covid, où les médiathèques sont fermées, ils n'ont plus rien, ils sont démunis. Et moi, c'est vraiment cette structure-là que j'ai envie de mettre en place. Aller chez eux également, faire des formations de groupe, mais à leur domicile également, sur des petits groupes. Et j'ai besoin de matériel, j'ai besoin de faire des campagnes de pub, j'ai besoin de local. Et ça a un coût certain. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette campagne sur Kengo. Je pense qu'on mettra peut-être le lien dans
dans les notes de l'émission. Moi, ce que j'aime dans cette approche, c'est que ça met à profit les concepts et les technologies qu'on utilise tout le temps, du financement participatif, etc., mais à un niveau local. C'est-à-dire que vraiment, c'est destiné t'as la plateforme d'une part qui est bretonne, et ton projet, c'est vraiment pour ta vie locale, et ça peut encourager les personnes qui sont actifs ou même qui veulent s'impliquer un petit peu dans leur vie locale, à aller regarder ce projet ou d'autres types de projets sur cette plateforme, je trouve qu'il y a une valeur qu'on fait.
En fait, on a un maire qui est jeune et il essaie de développer toute une dynamique. On a des complexes sportifs qui sont... Il a mis les budgets, les moyens, mais peut-être au niveau informatique, du moins au niveau de ma partie, qu'il n'a pas trouvé les gens assez compétents ou assez pédagogues, assez fiables et assez calmes, patients. Je pense qu'il y a, sur Gwenou en tout cas, il y a possibilité de faire des choses. Et il a mis beaucoup de choses en place. On a un maire... Franchement bien, il a mis beaucoup de choses en place, mais pour l'informatique, il n'y a pas grand-chose, effectivement. Mmh. Et c'est là où j'ai toutes mes cartes à jouer, mais j'ai besoin, effectivement, de ce financement, déjà, pour me faire connaître. Je pense que ton émission va mettre un gros coup de boost pour me faire connaître.
Je ne sais pas. Mais...
je pense, vu... Et effectivement, avec le budget, avec l'argent, on peut arriver un peu plus vite aux choses en étant connu. Parce que j'ai des compétences, j'ai la patience, je suis certain qu'on peut arriver à des choses, mais j'ai besoin d'un coup de pouce.
Un petit coup de main. C'est si vous êtes dans la région ou peut-être même si vous n'êtes pas dans la région et que la philosophie de Erwan vous a plu et que vous voulez lui donner un petit coup de main, vous pouvez aller sur le site en question. Le lien sera dans les notes de l'émission. Est-ce que tu as un compte Twitter ou une activité sur les réseaux sociaux que
sur Facebook? Sur Facebook, c'est Finiste Web. Mon nom, j'ai deux pages, en fait, mon nom, mon prénom, donc Erwan Medec. Mais je pense que ce sera peut-être plus simple si les gens vont lire.
Tu me donneras les liens spécifiques et je les mettrai aussi dans les notes de l'émission.
Tout à fait. Et j'ai une page Facebook et un site web. Donc ma page Facebook, c'est Finiste Web, donc F-I-N-I-S-T Web, W-E-B.
C'est finistweb.com ou... Ah oui, d'accord.
C'est finistweb.com, le site.
Très bien. Finistweb.com, super. Et on mettra donc les liens dans les notes de l'émission, c'est parfait. Je te remercie, Erwan. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez aller sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Et c'est grâce à vous que l'émission existe. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura passionné autant qu'il m'a intéressé, moi. Et je vous donne rendez-vous donc dans une petite semaine pour un nouvel épisode avec bientôt le retour à la normale. Ciao à tous!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.